Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on fait un truc un tout petit peu différent. J'ai enregistré un épisode avec Ilias de La Bulle Crypto pour parler de Libra pour mon autre podcast qui s'appelle Hashtags, dans lequel on parle des réseaux sociaux. Et comme on a beaucoup parlé de Libra avec Nico au cours du dernier épisode de CKB Show, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous faire aussi bénéficier de cet enregistrement. Donc voilà, je suis en déplacement, donc on enregistre avec le micro-casque et la qualité n'est pas toujours super bonne, mais je pense que ça reste écoutable. Allez, bonne écoute! Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour cet épisode hors série de Hashtags. Donc cette fois-ci, je ne suis pas avec Stéphane, comme d'habitude, mais je suis avec Ilias. Bonjour Ilias.
Salut.
Et donc Ilias qui nous vient en fait du podcast La Bulle Crypto, qui est un podcast qui parle des crypto-assets, donc Bitcoin, Ethereum et tous les autres. Et donc vous l'avez deviné avec une intro comme ça, on va vous parler de Libra. Donc Libra, c'est la mal nommée cryptocurrency de Facebook, et on va bien vous faire comprendre qu'en effet c'est un tout petit peu plus compliqué que ça en parlant aujourd'hui. Mais je vais la faire simple en fait. Je vais tout simplement laisser Ilias parler, faire une petite introduction autour des cryptos et nous parler de Libra en particulier, parce qu'on est vraiment en présence d'un expert sur la question. Donc voilà, j'ai hâte de tout savoir et j'espère que c'est la même chose pour vous. Donc Ilias, pour résumer les choses, les cryptos c'est Bitcoin et Ethereum, c'est ça? Il n'y en a pas d'autres?
Bon, il y en a beaucoup des cryptos. Déjà, j'aime bien la mal nommée Libra, j'aime bien cette appellation. Mais il y en a beaucoup des cryptos. Aujourd'hui, on parle de milliers de crypto-monnaies, parce qu'en fait, on peut déjà commencer à parler un petit peu des crypto-monnaies pour introduire Libra, pour bien comprendre aujourd'hui Libra, dans quel contexte ça arrive et où est-ce que ça va se jouer? Quel est le petit problème? En fait, tout est lié à une définition du mot crypto-monnaie. Parce que ce mot est apparu avec le lancement de certaines monnaies électroniques dans les années 90, en fait. Donc, ça date d'il y a un moment, et dans les années 2000 aussi, au début des années 2000. Et ces monnaies avaient pour objectif de fonctionner différemment des monnaies aujourd'hui. Donc, une crypto-monnaie, c'est plusieurs choses. C'est un support technologique. C'est utiliser un certain type de technologie particulier. Et cette technologie elle-même a une visée qui accomplit certains objectifs. Et quand on parle de crypto-monnaie, pour la majorité des gens aujourd'hui, on parle d'un système financier qui va être complètement décentralisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul acteur qui va pouvoir dominer ou changer des choses dans ce système sans en parler et comparer avec les autres acteurs, comme les banques aujourd'hui peuvent faire par exemple, ou les gouvernements dans certains cas. Mais c'est aussi tout un tas d'autres choses, c'est-à-dire que je ne demande jamais la permission de qui que ce soit pour faire quoi que ce soit. Si aujourd'hui je veux commencer une compagnie sur Bitcoin ou Ethereum, je ne devrais pas avoir besoin de demander l'autorisation à une entité centrale, par exemple. Donc, c'est très lié à la libération des personnes sur Internet, à l'émancipation de l'individu dans le système financier. Et ça, on l'a de manière très, très claire, parce que la première crypto-monnaie qui a été lancée, Bitcoin, elle cachait un message secret, enfin un message secret, j'exagère, mais un message qui était encodé dans ce qu'on appelle le Genesis Block, le premier bloc qui a été créé pour Bitcoin. Donc, les crypto-monnaies s'appuient sur la blockchain, la chaîne de blocs. En fait, c'est une technologie qui permet de synchroniser un réseau décentralisé. On soit tous d'accord sur un état des données à un moment X ou Y. Là, et un état des données, on peut parler par exemple de l'état des transactions dans un système financier. Qui possède quoi? Qui a envoyé de l'argent à qui? Donc, il y a un bloc qui est mis à des intervalles réguliers pour mettre tout le monde d'accord sur ça. Et donc, dans le premier bloc qui a été créé par la personne de groupe, un mâle, une femelle, je sais pas, mais une personne qui s'est prénommée, qui s'est mis en avant comme Satoshi Nakamoto. On sait toujours pas qui cette entité ou personne est aujourd'hui. Et dans ce bloc, il y avait caché un message qui était le titre d'un journal anglais, The Times, du jour où la crypto a été lancée, qui en fait disait, bon, en anglais, c'est des Chancellor bails is on the brink of bailing banks for the second time. Donc, le chancelier britannique qui était sur le point d'offrir aux banques un deuxième bailout. Donc, un bailout, c'est de l'argent qu'ils vont pouvoir utiliser pour se renflouer et repartir après la crise de subprime. Donc, on parle de 2009. Donc, après la crise qui a lancé le monde dans une très, très longue crise pour beaucoup de pays, ça a fait sur un effet domino. Bitcoin a été lancé et le message caché ici, c'était que les Britanniques allaient pour la deuxième fois donner de l'argent aux banques pour les relancer, alors que les banques sont un business comme les autres. Ils ont fait un mauvais travail. Ils ont coulé le système économique avec eux. Mais la réponse des gouvernements américains, britanniques,
ça a été de sauver les banques.
Exactement, de leur donner plus d'argent. En gros, c'est, imaginons aujourd'hui une compagnie comme Boeing. qui fait des bêtises, c'est-à-dire qu'ils mettent des capteurs sur un avion où ils sont pas sûrs de comment ça va fonctionner, tout ça, c'est pas clair.
Par exemple.
Les avions crashent. Exactement. Boeing devrait être puni par le marché. Le marché devrait, en fait, vendre les actions de Boeing et le prix devrait descendre. Peut-être même que ça va tuer Boeing et que Boeing va couler. Normalement, on ne devrait plus en parler. C'est terminé. On passe à autre chose. C'était une compagnie qui n'était pas très efficiente et qui faisait pas bien son travail. Mais pour les banques, on dirait que ça n'arrive pas. C'est pas le seul problème que les gens qui sont, qu'on appelle Bitcoin maximalistes, qui sont à fond pour Bitcoin et pour l'esprit de décentralisation absolue, totale et sans permission, la vie privée absolue, toutes ces choses, en fait, qui sont la liberté de l'individu qui devient irrévocable et impossible à remettre en question, à enlever ou quoi que ce soit. En fait, il y a beaucoup de problèmes avec les banques. C'est pas le seul. Avec le système financier aujourd'hui, par exemple, pourquoi un euro, ça vaut un euro et pourquoi ça vaut tant de dollars aujourd'hui et tant de dollars demain, d'où ça vient? Bon, comme on revient à l'histoire des monnaies, c'était sur les, basé sur l'or, tout ça, mais aujourd'hui c'est plus le cas et les monnaies sont flottantes. Donc, j'essaie de peindre un petit portrait rapide, pas d'idéologie et de concepts rapidement, qui sont autour de ce qu'on appelle une crypto-monnaie. Ouais. Mais il y a certaines monnaies qui sont aujourd'hui au sein de la liste des crypto-monnaies. Donc, pour ceux qui sont curieux, vous pouvez aller sur le site CoinMarketCap, comme la capitalisation boursière des crypto-monnaies. Vous allez pouvoir voir la liste des cryptos par classement de capitalisation boursière. Donc, si jamais toutes les monnaies de chacune de ces monnaies, toutes les pièces, excusez, de chacune de ces monnaies étaient, on les vendait aujourd'hui au prix actuel de vente, ben, en fait, combien ça représenterait d'argent? C'est ça, la capitalisation boursière. C'est la même chose pour les compagnies avec les actions. On multiplie le nombre d'actions en circulation par le prix de chacune des actions et on a la capitalisation boursière. Donc, vous pouvez regarder cette liste et vous allez remarquer une monnaie qui a, on a beaucoup, on en a beaucoup parlé, on en parle toujours beaucoup, c'est la monnaie Ripple, XRP. Ça, c'est le sigle de la monnaie, qui, en fait, elle ne respecte pas beaucoup de ses principes. C'est pas la seule, il y en a d'autres, mais qui ne respecte pas les principes de décentralisation, les principes sans permis, de ne jamais avoir besoin de demander la permission à qui que ce soit, les principes d'immuabilité, ce qui signifie qu'on ne peut pas modifier l'histoire passée, qu'une entité ne peut pas le faire en tout cas, ça doit être le concert de tous les acteurs qui participent à ce réseau. Donc, il y en a des cryptos qui respectent pas ce principe, on les appelle quand même crypto. Et en fait, moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, Facebook va forcer le monde à faire une distinction entre une crypto-monnaie et une monnaie numérique, qui sont deux choses différentes.
Voilà, tu nous as fait une super intro, et c'est vrai qu'en fait, tu arrives exactement à un sujet qui est intéressant là quand on parle de Libra, c'est qu'en fait, on a eu l'idée donc le Bitcoin par principalement par l'accroissement en fait de sa valeur hein, a pris un peu le monde de plein fouet, on en a parlé partout, les journalistes s'en sont emparés, et on avait comme tu dis cette idée de point de départ, hein, l'événement fondateur comme tu dis, c'est l'effondrement du système bancaire, donc le Bitcoin c'était un petit peu une monnaie entre guillemets, c'est la crypto chimiquement pure en fait, dans le sens où, comme tu dis, donc tout est décentralisé, on ne sait pas qui est-ce qui l'a créé, et elle vit presque sa vie d'elle-même en fait, plus que n'importe quelle autre crypto-monnaie. Et Libra finalement vient se placer de la même façon que Ripple, un petit peu de complètement à l'opposé du spectre, où on a donc une organisation très identifiée et très clairement déclarée qui a beaucoup de poids en fait dans ce que cette monnaie va représenter. Je pense que c'est l'occasion de parler peut-être un petit peu de la structure de Libra. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Qu'est-ce que tu en penses aussi de ton point de vue, la façon dont la Libra Association est organisée, et est-ce que c'est quelque chose qui est finalement très très différent de ce qui peut exister chez Ripple ou d'autres crypto-monnaies ou Ethereum, ou est-ce qu'on est finalement vers quelque chose d'assez standard?
Intéressant, c'est que c'est difficile de voir comment la décentralisation va être intégrée, implémentée durant les 5 ans à venir. Parce qu'actuellement, le système mis en place, il laisse très, 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 très peu de place à la décentralisation. Donc, comme le s'est expliqué dans le white paper qui a été publié, et qui est un des white papers les moins clairs que j'ai vu pour des bons projets, pour être honnête.
Ah ouais, c'est vrai.
Parce que des white papers, on en a vu des centaines. Moi, j'en ai lu des centaines. Surtout à l'époque des ICO, donc les Initial Coin Offerings, c'était en 2017. Où il n'y avait pas du tout de législation et n'importe quelle compagnie pouvait commencer à générer des tokens, des jetons, les vendre à des gens au prix que eux déterminent, et ensuite c'était fini, parce que généralement cette compagnie ne performait pas très bien, le prix du jeton ne montait pas, et déjà ils vendaient le jeton à un prix qui faisait que la compagnie valait 32 millions de dollars alors que le projet avait même pas commencé, donc ils avaient une idée quoi. Et toutes ces compagnies, le seul document avec lequel ils vont te convaincre de mettre de l'argent chez eux, c'est un white paper qui va généralement faire une trentaine de pages, qui est plein de couleurs et très peu de détails, alors que, juste pour rappeler, l'équivalent de cette opération dans le monde réel, pas dans le monde des crypto-monnaies, c'est ce qu'on appelle un IPO, une Initial Public Offering. Du coup, ça se passe sur un marché public, comme le Nasdaq ou alors le CAC 40. Et là, en fait, vous allez recevoir une pile de documents qui va faire l'équivalent de 3 ou 4 briques pour étudier cette compagnie et déterminer le prix du moment où elle se lance dans le marché public. Les cryptos sont arrivés, ils ont dit « Ah non, nous c'est différent, c'est une ICO, c'est pas une IPO, donc c'est deux choses distinctes. » Et du coup, nous n'avons pas le besoin de passer par ce processus de régulation qui est complexe, coûteux et qui fait que le lancement va prendre un an. Et en fait, on va y arriver, mais Libra, c'est un peu la même chose. Hein. C'est des gars qui sont arrivés et qui ont dit « Bon, bah nous, c'est pas exactement eux, donc tu sais quoi, on n'a pas besoin de respecter toutes les lois, tous ces trucs, on dirait hein, pour l'instant. » Et puis effectivement, le lancement donc de cette association qui va contenir, donc je crois que c'est 27 partenaires, le nombre exact si je me rappelle bien, dont beaucoup de compagnies qui sont des compagnies qui font du paiement aujourd'hui ou qui utilisent fortement des compagnies qui font du paiement, comme Visa, Mastercard, Stripe, eBay, PayPal, Uber, Lyft, Coinbase, qui est à fond dans les cryptos, qui fait du paiement avec les cryptos. Donc Facebook ont réussi à rassembler ces partenaires incroyables qui donnent l'impression que le succès va forcément arriver. On va revenir là-dessus aussi. Je pense que c'est pas forcément le cas.
Ouais, je te sens très sceptique en fait sur le projet, ce qui est assez intéressant parce que j'avoue, je m'attendais pas. On en a pas trop parlé avant, mais je m'attendais pas à une vision entre guillemets pessimiste ou en tout cas critique de ta part. Mais vas-y, continue, c'est intéressant.
Oh, alors moi, c'est simple. Des projets comme celui-là, des white papers de ce style-là, j'en ai vu plein. On en a vu plein, des projets qui arrivent et qui veulent révolutionner les réseaux sociaux. Mmh. Un des derniers dont j'ai déjà oublié le nom parce que plus personne n'en parle, c'est celui dont PewDiePie a fait la pub. Je sais pas si tu connais PewDiePie.
Ouais,
c'est la personne avec le plus de subscribers ever sur YouTube. C'est genre quelqu'un, un influenceur énorme qui a beaucoup d'impact et qui pourrait entraîner une communauté entière de plusieurs millions de personnes à commencer à utiliser une crypto. Donc encore une fois, la même histoire, une crypto basée sur un réseau social qui a pour but de révolutionner la manière dont le réseau social fonctionne, d'arriver à donner de l'argent à tout le monde, à rendre de l'argent à tout le monde, tous les participants, tout ça. Bon, au final, on n'entend plus parler de ce truc depuis qu'il en a fait la pub pendant les deux premières minutes de sa vidéo. Mmh. Et c'est pas la première fois que ça arrive. Ouais. Et ça va continuer à arriver, je pense, parce que tout le monde arrive en le projet qui réussit le mieux au niveau des crypto-monnaies, pour les réseaux sociaux, excusez, au niveau des cryptos, si certains sont intéressés, c'est Steam. Ouais, exactement. STEEM. Donc, vous en avez peut-être déjà parlé au niveau du podcast. C'est celui qui réussit le mieux et qui fonctionne très mal, si tu t'es renseigné un peu.
Ouais, c'est la question que j'allais te poser. En fait, il y a, en gros, moi, je pense à deux exemples. Il y a ça et puis il y a le BAT de Brave, le navigateur Brave, qui est un fork, à la base, qui était un fork de Mozilla. Et d'ailleurs, maintenant, il me semble qu'il tourne sur Chrome, c'est ça, ouais. Il y a toute une histoire sur laquelle on pourrait s'arrêter un jour aussi autour de cette histoire-là. Mais l'idée de Brave aussi, c'était ça, c'était finalement avoir une crypto, donc BAT, Basic Attention Token, qui en gros monétise ton attention, pour le dire de façon assez simpliste, et donc qui te rémunère en fonction du contenu que tu regardes et qui te donne la possibilité aussi de toi rémunérer les gens qui produisent du contenu. Donc Steemit, c'était un petit peu différent, mais c'était aussi un petit peu la même idée, c'est ça ?
Absolument. Enfin, c'est pas le même système, on va dire, mais c'était la même idée. L'idée, c'est de trouver une manière de rentabiliser, de payer les créateurs de contenu. Malheureusement, ça se passe souvent en rentabiliser les créateurs de contenu, si tu vois la différence, la petite nuance entre les deux. Et en fait, il y a plusieurs projets qui ont essayé de le faire de manière complètement décentralisée. Steemit, c'est pas le cas. C'est pas une décentralisation complète. Donc, tu vois, la coin Steem et puis EOS, le réseau derrière, c'est des coins qui rentrent, c'est des pièces qui rentrent dans la catégorie de celles qui sont entre les crypto-monnaies et les monnaies numériques où on n'est pas tout à fait sûr. D'accord. C'est pas comme le Ripple où là, on est assez certain de dans quelle boîte ils sont. Là, c'est un peu plus... Mais malgré tout, les versions les plus décentralisées de ça ne sont pas arrivées à, donc c'est-à-dire où il n'y a pas de partie centralisante comme Facebook qui va vraiment récupérer une taxe, comme c'est le cas là. Je ne sais pas si vous avez remarqué comment Facebook se paye avec Libra, mais il n'y en a même pas. Et malgré tout, on n'arrive pas à construire quelque chose qui fonctionne, qui va durer pendant longtemps, qui ne va pas avoir besoin d'une entité qui le centralise ou quoi que ce soit.
Ouais, alors attends, quand tu dis Facebook se paye, donc tu penses à quoi ? Tu penses à l'argent qui est généré à partir des intérêts de la monnaie qui est mobiliser.
Absolument,
oui. Ok. Oui. Donc, on peut peut-être prendre le temps d'expliquer un petit peu. Donc, oui, la différence, c'est donc Libra. L'idée, c'est en gros, c'est un stablecoin. Donc, a priori, on peut estimer qu'un Libra acheté aujourd'hui vaudra en gros, si on ignore l'inflation, à peu près la même chose dans un an, deux ans, trois ans. Et donc, du coup, cette monnaie, elle est adossée à un panier de différentes monnaies. Donc cette monnaie, la Libra, est adossée à un panier de différentes monnaies.
Vas-y. On revient sur un petit point que tu as dit, c'est que si j'achète un Libra aujourd'hui, dans deux ans, si on enlève l'inflation, il devrait comme valoir la même chose. Mais en fait, ça, je suis pas certain que ce soit vrai après avoir parcouru le white paper, parce qu'on dirait que ces monnaies vont être l'argent que tu mets pour acheter des Libras vont être placés sur des placements qui vont offrir des faibles taux d'intérêt, mais qui vont quand même offrir des taux d'intérêt.
À destination des gens qui ont du Libra, qui achètent de Libra?
Oui, c'est-à-dire que moi, si je veux du Libra demain, en fait, le Libra, ça va être une stablecoin qui va être attachée à tout un tas de valeurs sûres, de valeurs stables. Ils n'ont pas seulement parlé de monnaie, d'ailleurs, ils ont aussi parlé des bonds, de certaines classes financières qui sont réputées comme étant stables parce qu'elles sont garanties par des gouvernements ou des choses de ce genre. Mmh. Donc, ça serait un mix de toutes ces choses. En gros, l'objectif, c'est de limiter sa volatilité, même si jamais c'était attaché qu'au dollar. Quand il y a de la volatilité au niveau du dollar, il y aurait de la volatilité au niveau du Libra aussi. Mais étant donné que c'est une monnaie qui a pour but d'être internationale, ça serait pas très pratique pour beaucoup de personnes en dehors des États-Unis. Ouais. Bref, ils ont décidé de diversifier un peu ça pour diminuer l'impact de la volatilité de n'importe laquelle des classes qui est derrière cette monnaie. Mmh. Mais moi, si je veux en acheter, je vais devoir payer l'équivalent de ces classes. Par exemple, si je veux un Libra, je vais devoir payer l'équivalent de ces classes qui représentent un Libra. Donc, je les paye aujourd'hui. Mais ensuite, le dollar que moi j'ai mis, il va être placé quelque part, comme les banques font aujourd'hui, pour générer des intérêts. Tout comme pour certains d'entre vous qui utilisent PayPal comme une banque, en fait, vous ne devriez pas parce que PayPal utilise votre monnaie pour générer des intérêts, mais ne vous les donne pas.
Oui, c'est ça, cet argent. Cet argent retourne à PayPal. Et il me semblait que Libra faisait la même chose et que l'argent retournait aux membres de la Libra Association, donc les gens qui opèrent les nœuds finalement.
Absolument. Ouais. Qui sont parmi, au début, les 27 partenaires. Donc, on parle de Stripe, Facebook, Visa, Mastercard, tout ça, qui vont récupérer tous les dividendes. Mais au bout d'un moment, l'idée, ça serait que les dividendes puissent revenir aux gens qui... Alors, au début, en fait, ce qui précise dans le white paper, je vais être un peu plus précis, on va le dire clairement tel qu'ils l'ont dit. Au début, l'argent reviendrait à la croissance et la construction de l'écosystème Libra. Mm-hmm. Donc, elle serait utilisée pour faire de la R&D, pour monter des partenariats, pour faire du marketing. L'argent serait vraiment utilisé que pour ça. Et comme tu le sais, ils prétendent avoir levé une grosse somme d'argent auprès des 27 partenaires.
Le ticket d'entrée de 10 millions de dollars, à l'exception des quelques associations, en fait, qui font partie de, genre Kiva, par exemple, qui est pas une association, mais une non-profit. Et donc, du coup, eux, pour le coup, n'ont pas besoin de payer pour rentrer. Ils doivent opérer le nœud, donc ils payent les frais d'opération du nœud. Mais ils n'ont pas besoin de payer les 10 millions de dollars pour faire partie de l'association.
Exactement. Et là, si tu veux, je vais faire un petit parallèle avec Bitcoin. Parce que une des difficultés de n'importe quelle nouvelle monnaie qui entre sur le marché, c'est de réussir à être adoptée, de faire en sorte que les gens l'utilisent dès le début. Parce que si jamais ta monnaie, personne l'utilise pendant un an, il y a très peu de chances que les gens l'utilisent l'année d'après. Ouais. Donc, dès le début, tu veux que des gens l'utilisent. Libra, leur stratégie pour arriver à ça, c'est rassembler 27 partenaires qui sont parmi les plus gros fournisseurs de paiement, utilisateurs de paiement, compagnies dans les cryptos, pour avoir de l'argent, avoir beaucoup de cash, de liquidité dès le début, et créer probablement des choses qui vont nous attirer vers Libra plus que le dollar. Parce que c'est ça, en fait, Libra, on dirait qu'ils sont en compétition avec le dollar. Ils sont pas en compétition avec Bitcoin ou même Ethereum. Quoique, ils ont parlé de smart contracts dans leur white paper. Donc, les smart contracts, c'est des programmes intelligents qui vont faire un certain nombre d'opérations sur la chaîne de manière décentralisée. Donc, c'est des fonctions qui sont impossibles à arrêter. Imaginons qu'on a un Facebook construit avec des smart contracts, des contrats intelligents, en fait, ce serait impossible de l'éteindre jamais parce qu'il serait fonctionnerait de manière décentralisée et c'est du code écrit de manière décentralisée. Donc, ils parlent de ça, mais honnêtement, ils n'expliquent pas trop pourquoi ni à quoi ça servirait. Ils parlent de la blockchain, mais ce qu'ils ont, ce n'est pas une blockchain actuellement. Ce n'est pas du tout une blockchain, c'est l'équivalent de ce que la banque a. Ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de la technologie, Libra ne porte rien de révolutionnaire, absolument rien. Le seul avantage qu'ils ont, c'est dans ce que je parlais, c'est qu'ils vont pouvoir démarrer rapidement. Parce qu'ils ont beaucoup de liquidités, ils ont des gens qui ont beaucoup de cash et qui peuvent acheter du Libra, ces compagnies-là, les tickets d'entrée dont on a parlé. Ils ont aussi la possibilité de créer des deals intéressants, et c'est ça le plus important en fait, et c'est ça la force la plus grosse qu'ils ont. Et surtout, ils vont être comme les premiers sur le marché à être une compagnie qui offre une monnaie numérique, qui n'est pas vraiment une crypto-monnaie, mais qui exploite un peu les crypto-monnaies et la blockchain, la partie plus marketing, pour se lancer en avant.
Ouais, donc en fait, si je t'entends bien, c'est en gros de la même façon tous ces ICO qu'on a vus, c'est vrai qu'on en voit moins maintenant, mais qu'on voyait il y a encore un an assez régulièrement.
Parce que la régulation est arrivée et a commencé à faire mal.
Voilà, c'est ça. Mais la seule différence, c'est qu'ici, on parle de Facebook qui est finalement un mastodonte et qui a toute la force de frappe du point de vue engineering et du point de vue en termes d'ingénierie et en termes de marketing.
Mais engineering, il y a rien de nouveau, hein. Juste pour préciser, si c'était pas fait au niveau d'ingénierie, il y a pas vraiment besoin. T'as des serveurs, c'est bien, ça aide, mais ils n'ont pas dû faire de la R&D de fou pour arriver à Libra, là, au contraire.
C'est vrai, alors du coup, ils ne nous disent pas, parce que quand on écoute, il y a quand même les concepts de preuve, proof of stake, donc du coup, preuve d'avoir, je sais pas comment est-ce qu'on dit ça en français, qui semblerait être utilisé. Enfin, moi, j'avais quand même eu l'impression qu'on parlait quand même de nœuds et qu'on parlait vraiment d'une crypto avec des, oui. des blocs et une chaîne de Absolument. Blocs et tout ça. Mais c'est, alors, c'est juste, en gros, de, une blockchain de base, en gros, c'est pour le dire simplement.
Non, même pas. En fait, même pas. C'est ça qui est pas clair. C'est ça qui est problématique. Donc, ce que dont tu parles, la preuve d'enjeu, la proof of stake, moi, j'appelle ça la preuve d'enjeu. En tout cas, je sais pas si c'est quoi le bon nom. Mais...
Preuve d'enjeu. Ouais, pardon.
Preuve d'enjeu, j'appelle ça. Ça a été lancé en 2012. Il y a un papier qui a été écrit à propos de ça en 2012. Et la raison pour laquelle la preuve d'enjeu est arrivée, c'est qu'en fait, dès 2009, les gens ont pu voir, ben, 2010, on va dire, 2009, c'était vraiment tôt, les gens ont pu commencer à voir que Bitcoin allait consommer beaucoup d'énergie. Bitcoin, c'est un système qui est extrêmement sécurisé. À la puissance de calcul disponible sur son réseau. Donc en fait, la seule manière de, enfin, il y a d'autres manières, mais elles ont toutes été bouchées par le fait que Bitcoin est extrêmement simple. Et c'est ça qui fait qu'il est robuste. Bitcoin, dans les cryptos, c'est une des cryptos qui a le moins de fonctions et le moins de choses intéressantes.
D'accord.
C'est, au niveau des fonctions et de la technologie, c'est la plus ancienne. Mais c'est aussi la plus solide, la plus robuste. Et la raison, justement, c'est que il te laisse pas beaucoup de place, Bitcoin, pour faire une attaque. Et faire une attaque, généralement, ça va te coûter beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Tellement d'argent que c'est plus intéressant de faire une attaque.
OK.
Voilà, en fait, le mécanisme par lequel Bitcoin se protège.
D'accord. Et donc ça, pour le coup, a priori, c'est pas forcément nécessaire puisqu'on est en présence d'une blockchain à base de permissions avec des gens qui sont, entre guillemets, identifiés pour faire tourner des nœuds, etc., etc.
Donc, on fait confiance à ces gens, voilà. Aux 27 nœuds. Et en fait, on voit déjà ce genre de choses. Aujourd'hui, on parle avec Ripple, qui fonctionne comme ça. Ouais. Personne ne peut participer au réseau de Ripple. Personne, en fait, c'est pas vrai. On peut se créer un compte Ripple sans demander la permission de qui que ce soit. Ouais. Mais il y a des personnes, beaucoup de personnes, beaucoup d'entités qui ont le pouvoir de révoquer, de détruire, de faire ce qu'ils veulent de ce compte Ripple. Et en fait, c'est ça le problème. Il y a une histoire de confiance qui est impliquée. Et la crypto-monnaie, donc, comme je le disais au début, le message, c'est en fait, on fait pas confiance aux banques, on fait pas au système financier, on fait pas confiance à nous-mêmes, on fait pas confiance à nos amis, on fait pas confiance à qui que ce soit, on vérifie tout, on check tout et personne n'a plus de pouvoir que les autres. C'est un peu ça une manière de voir cette idéologie. Et donc, Libra, ils utilisent la preuve d'enjeu qui a été développée en 2012. Ils utilisent des nœuds qui étaient développés par la preuve d'enjeu depuis longtemps. Ce que je veux dire, c'est que Libra n'est pas venu ici, comme beaucoup de cryptos sont en train d'essayer de le faire aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y en a autant. Chacune est en train d'essayer d'apporter des solutions à des problèmes des crypto-monnaies d'une manière ou d'une autre. Parce que le secret dont on n'aime pas parler au niveau des cryptos, c'est qu'aujourd'hui, utiliser la technologie de Bitcoin pour soutenir la planète entière n'est même pas possible techniquement. Si jamais on a plus de personnes qui rentrent sur le réseau va s'arrêter, le réseau va saturer et le réseau ne va plus fonctionner tel qu'on veut qu'il fonctionne. Donc, tout le monde est avec ses cryptos, moi, tout le monde est là. Ce que les gens ont l'impression qu'ils attendent, c'est l'adoption de masse.
Les gens,
mais tu sais, c'est comme, t'as une voiture, ouais, les gens qui l'ont, t'as un bus là, tu peux prendre 50 personnes et tu te balades avec ton bus en criant, hey, je veux transporter toute la ville avec moi. Tu peux pas, t'as pas la place, même si tu veux. Mais pourtant, c'est ça qu'on veut, on dirait. Ouais. Et Libra, dans leur white paper, ils commencent par ça. Ils commencent que, ce qui manque aux cryptos, c'est l'adoption. Moi, j'ai envie de dire non, ce qui manque aux cryptos, c'est une technologie qui permettrait l'adoption de manière décentralisée. Donc, si tu veux, le début, moi, j'ai trouvé ça que ça nous entourloupait un peu. Parce que c'est, il manque l'adoption, c'est la seule chose qui manque. On sait quoi? Nous, on a l'adoption. Oui, mais on n'a pas l'adoption de manière décentralisée parce que la technologie qui permet de le faire n'existe pas encore. Il y a des gens qui travaillent dessus, mais on l'a pas. Il y a plusieurs tentatives, IOS, tout ça. Et en fait, tu parlais de la preuve d'enjeu. Et c'est intéressant parce que depuis 2012, cette technologie, il a été prouvé de différentes manières comment elle serait moins sécurisée que la technologie de la preuve de travail qui est utilisée par Bitcoin. C'est pour ça que les gens qui sont dans les cryptos et dans Bitcoin, ils pensent que Bitcoin, le fait qu'il consomme beaucoup d'énergie, c'est pas un problème. C'est une fonction, c'est un avantage. C'est ça qui nous protège. T'as une grosse crypto qui s'appelle Ethereum. Tu l'as mentionné un peu plus tôt. Donc, c'est la deuxième plus grosse crypto depuis un bon moment, tout ça. Eux, ils sont en train d'essayer de passer vers la preuve d'enjeu. Et si tout se passe bien, durant l'année prochaine. Pour rappeler, moi, ça fait la cinquième fois que j'entends dire qu'ils vont passer sur la preuve d'enjeu, mais ils osent pas encore le faire parce qu'il y a des problèmes avec.
Et je t'arrête juste une minute pour faire une petite parenthèse en deux phrases. Comment est-ce que tu définirais la preuve de travail et comment est-ce que tu définis la preuve d'enjeu?
Ok, donc c'est difficile, je tiens à le préciser tout de suite, ça va être difficile de l'expliquer en quelques minutes parce qu'il y a plein de petits secrets, mais on va essayer de l'expliquer de manière un petit peu plus claire. En fait, il y a sur le réseau de Bitcoin, à toutes les 10 minutes, il y a un bloc qui est généré. Ce bloc, il va contenir 1 mégaoctet de transactions. On va faciliter la tâche en disant qu'il va contenir 1000 transactions. Donc, quand tu fais une transaction avec le réseau Bitcoin, elle va flotter dans les airs, littéralement un peu partout dans le réseau, mais elle va vraiment aller nulle part. Il y a des gens qui s'appellent les mineurs, qui vont juste avoir un PC qui peut faire des calculs pour Bitcoin très rapide. On va parler de ces calculs un peu plus tard. Donc, tu as un PC, tu le branches sur Internet et tu te connectes au réseau de Bitcoin. Tu es là, OK, je veux participer maintenant, je veux aider le réseau de Bitcoin. Mm-hmm. Toutes les 10 minutes, ton ordinateur, il va chercher ces transactions qui flottent, il va les prendre, il va en prendre 1000, il va faire un bloc avec. Et ensuite, ton PC va être là, ok, je suis prêt, j'ai mon bloc, comment on l'ajoute à la chaîne? Comment on fait en sorte que la vérité, parce que c'est littéralement ça, la chaîne, c'est la vérité sur laquelle on est tous d'accord, sur laquelle il y a un consensus, comment on fait en sorte que le prochain bloc, c'est le nôtre? Nous, on veut faire ça parce que deux raisons. La première, c'est que quand tu réussis à intégrer un bloc sur la chaîne, tu récupères les pourboires de toutes les transactions. Ouais. Quand tu crées une transaction pour Bitcoin, tu précises le pourboire que tu veux donner à celui qui va l'ajouter sur la chaîne. Donc, par exemple, j'envoie 10 Bitcoins, je les envoie à toi, et puis j'ajoute un Bitcoin de bonus pour le mineur. Donc, le mineur, quand il va prendre cette transaction et la mettre dans un bloc et l'ajouter sur la chaîne ensuite, il touche ce Bitcoin. En plus du fait que quand tu es un mineur qui a été sélectionné pour ajouter un bloc à la chaîne, tu vas gagner la récompense de bloc qui représente plusieurs bitcoins et qui se divise par deux tous les quatre ans, mais qui représente encore beaucoup de bitcoins. Ouais. Aujourd'hui, avec la variation de bitcoin d'aujourd'hui surtout, je pense que tu mines un bloc, tu touches quelque chose comme 130 000 dollars US d'un coup. Wow. Donc, c'est pas mal. Plus tous les pourboires, c'est pas mal du tout, hein, c'est intéressant. Donc, c'est pour ça qu'il y a des mineurs qui rentrent en jeu. Maintenant, le secret, c'est que pour ajouter ton bloc à la chaîne, enfin, le secret, l'astuce pour ajouter ton bloc à la chaîne, il faut que tu réussisses à faire une opération qui est aléatoire et imprévisible. Donc, c'est une opération mathématique, ou plutôt informatique, là, qui est complexe. Et du coup, elle est tellement complexe que c'est difficile de prévoir le résultat en connaissant ce que tu vas mettre dans cette fonction. Et en fait, dans cette fonction, tu vas devoir mettre ton bloc que tu as choisi, que tu as généré, qui est différent de celui de tous les autres mineurs, parce que certains mineurs vont choisir certaines transactions, alors toi tu vas les laisser pour le bloc suivant, tu vas choisir d'autres d'abord. Uh-huh. Tu vas l'assembler, tu vas ajouter avec une valeur aléatoire. Donc c'est comme si tu as un résultat d'un exercice que tu as fait, le résultat c'est 42, tu vas ajouter une valeur, 3, ensuite tu vas injecter 42 plus 3 dans cette fonction, et le résultat que tu obtiens, il doit être inférieur à une certaine valeur qui va par exemple être 3. Donc tu fais 42 plus 3, tu mets dans ta fonction, ça donne 17, t'es supérieur à 3, tu recommences l'opération. Mmh. Tu fais 42 plus 8, tu l'injectes, t'obtiens 50, ça donne 50, pardon, tu l'injectes dans la fonction, le résultat c'est 2, oh, je suis en dessous de 3, j'ai gagné.
D'accord.
Donc là tu prends ton bloc et le numéro aléatoire que t'as ajouté, tu les envoies sur la chaîne et tu dis à tout le monde, hey, c'est moi qui l'ai trouvé parce que j'ai réussi à résoudre le problème
donc,
avant.
Donc c'est moi qui ai le pourboire, c'est moi qui ai les pourboires et la récompense, d'accord. Donc et ça c'était... Ouais.
Et étant donné que c'est compliqué.
Non, j'allais dire, ça c'était la preuve de travail, mais ils sont directs, c'est pas fini.
Exactement. Étant donné que c'est complètement aléatoire, ça fait que c'est décentralisé. Parce que tu vois, Facebook, ils peuvent participer, bah, ils vont avoir peut-être plus de chances d'être sélectionnés parce qu'ils vont avoir plus d'ordinateurs, mais malgré tout, ils vont pas faire en sorte d'être sélectionnés chaque fois.
Ouais.
Et surtout, d'être sélectionnés au moment où ils veulent effectuer une opération malicieuse et donc faire passer des transactions malicieuses au lieu de transactions légitimes.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire?
C'est ça l'enjeu.
Ça rend très difficile d'attaquer le réseau.
C'est ça, c'est éviter d'avoir le contrôle du réseau.
Tu as dû entendre parler.
Ouais, bien sûr.
C'est ça. Donc avoir le contrôle, ça signifie posséder 51% de la puissance de calcul du réseau. Et c'est ça qu'on veut absolument éviter à tout prix.
Voilà. Donc ça, c'est pour la preuve de travail.
Ça, c'est la preuve de travail.
Ouais. Et donc la preuve d'enjeu.
Et maintenant qu'on a mis beaucoup de choses en place, ça va être plus rapide la preuve d'enjeu, effectivement. Donc la preuve d'enjeu, c'est qu'en fait, tu as un bloc qui sort toutes les X minutes. La même chose, mais la différence, c'est que cette fois, tu vas être sélectionné aléatoirement par un algorithme qui va considérer deux choses, la quantité de pièces que tu possèdes, plus tu possèdes de pièces, plus tu as de chances d'être sélectionné, et puis une portion complètement aléatoire. Donc, il y a un peu les deux qui jouent, donc tu as plus de chances d'être sélectionné si tu as beaucoup de pièces.
D'accord.
Et quand tu es sélectionné, tu formes ton bloc, tu l'assembles, tu l'envoies. Ça coûte zéro énergie quasiment, parce que tu peux le faire avec un smartphone, avec un iPhone, un téléphone, ouais. Tu installes l'application et tu attends. Puis, tu es sélectionné, tu envoies ton bloc. Tu es sélectionné, tu envoies ton bloc. Donc, c'est là où il y a des discussions beaucoup, beaucoup sur la sécurité de ce système, où en fait, il y a plusieurs personnes qui ont essayé de montrer, de prouver que si jamais tu as un système de ce genre-là, dont la valeur d'une pièce vaut beaucoup, ben en fait, ça serait possible pour quelqu'un d'augmenter ses chances d'être sélectionné à plusieurs reprises en utilisant divers systèmes, juste des choses pas très compliquées, mais ça serait possible. Et une fois que tu y arrives, tu pourrais faire une attaque sur le réseau et voler de l'argent.
Mais alors attends, donc, du coup, voilà, est-ce que j'avais compris, moi, c'est que malgré tout, si donc tu es sélectionné, mais que tu essayes de faire entrer une transaction frauduleuse, tu es puni. Et du coup, les
bits. Mise en jeu.
Ouais, voilà, c'est ça. Donc, le contenu, enfin, le montant des pièces que tu mets en jeu, en fait, du coup, il est saisi. Et du coup, en gros, t'as joué, t'as essayé de tricher, t'as perdu. Donc, du coup, toutes les pièces que tu avais en enjeu, tous les coins que tu avais en enjeu, sont saisis. C'est ça?
Ouais, c'est ça. Mais on va pas rentrer dans les détails, mais malgré ce mécanisme.
D'accord.
Parce que plus compliqué, mais malgré
forcément.
Ce mécanisme, ce système, où, si tu veux, la preuve de travail, on est quasiment certain, on le vérifie tous les jours avec Bitcoin, mais on sait que c'est un système sécurisé. La preuve d'enjeu, maintenant, on ne sait pas, on n'est pas sûr. On a
D'accord.
des doutes, et comme on peut le voir, Ethereum, si eux franchissent le pas et réussissent à mettre en place une preuve d'enjeu qui fonctionne, qui est solide et sécurisée, là, ça va tout changer.
D'accord.
Là, ça pourrait faire mal à Bitcoin au bout d'un moment, au bout de quelques années, une fois que les gens sont plus certains de cette technologie. Et Facebook, eux, ce qu'ils proposent d'utiliser, c'est ni ça, ni l'autre, ni autre chose, parce qu'il y a d'autres preuves qui existent dans le monde des cryptos. Mais eux, ils font autre chose de complètement différent. Par exemple, Facebook ne parle pas de blockchain, jamais. Ils parlent d'une chaîne de transactions. Donc, c'est juste des transactions les unes après les autres.
D'accord.
Il n'y a pas de bloc qui synchronise un réseau. On dirait qu'il n'y a pas de besoin de synchroniser un réseau décentralisé. Bah, en fait, le réseau va peut-être être centralisé. Mais voilà, à Facebook, ils expliquent que ce qu'ils vont faire, enfin, dans le white paper, ce qui n'est pas clair sur la partie technologie, il faut l'ajouter. Si ça se trouve, ça va changer. Mais actuellement, eux, ce qu'ils proposent, c'est pas d'utiliser une preuve d'enjeu, pas d'utiliser une preuve de travail. C'est des transactions qui sont validées par des nœuds. Mais pourquoi t'as besoin de valider si jamais les nœuds, tu leur fais confiance et tu sais que, bah, voilà, ils vont pas faire du mauvais travail. Mais c'est juste une chaîne de transactions. C'est tout.
D'accord. Oui, donc c'est en fait, finalement une grande base de données, en fait. Ni plus, ni moins.
C'est ça. Voici la carte de points Starbucks ou la carte de points McDo ou je sais pas laquelle tu connais. Jusque-là, honnêtement, ça ressemble plus à ça qu'autre qu'une crypto.
Eh ben écoute, c'est une transition parfaite, tu vois, ça fait plus de 30 minutes qu'on parle, et justement, en fait, donc là, on a parlé un petit peu de la genèse des cryptos, on a parlé aussi beaucoup des questions d'ingénierie, en fait, de mise en place de Libra, donc a priori, Libra, comme tu viens de nous l'expliquer, c'est pas forcément autant crypto que ça. Tu voulais dire un truc?
Non, excuse-moi, j'ai cru que ça allait couper, mais c'est bon.
Ah, ok. mais donc, du coup, moi, je voulais te lancer, tu me parles de Starbucks et de McDonald's, et c'est vrai qu'il y a quand même un truc qui est vraiment particulier à Libra, c'est les usages, en fait. Parce que moi, c'est un truc, enfin, depuis qu'il y a des rumeurs de crypto fait par Google, moi j'attends qu'une seule chose, c'est la capacité d'utiliser le transfert d'argent de façon aussi simple qu'aujourd'hui on envoie des photos ou on envoie des vidéos à travers le monde, et pour des raisons pas simplement par confort, mais aujourd'hui clairement les Western Union, MoneyGram et compagnie prennent énormément d'argent, prennent énormément de frais en fait quand on envoie de l'argent, et aussi sont des systèmes qui sont très compliqués, on n'est jamais complètement sûr que l'argent va arriver, enfin ça oblige les personnes qui le reçoivent à se déplacer dans un endroit physique la plupart du temps pour pouvoir récupérer les pièces ou les billets. Donc là on parle quand même en termes d'usage d'avoir la possibilité d'envoyer de l'argent aussi simplement aujourd'hui qu'on peut le faire sur PayPal et sur Venmo par exemple, mais de faire ça ou Lydia il me semble qui est assez populaire en France, sauf qu'on fait ça à travers le monde. Et est-ce que ça pour le coup tu penses pas que c'est quand même une des forces de Libra aujourd'hui?
Alors, on va rentrer dans la spécialité de Facebook. Facebook, c'est une compagnie dont le business, il prétend tout le temps, Zuckerberg l'a répété lors de son interlocution avec le Sénat américain, c'était juste cette année ou l'année dernière, peut-être fin de l'année dernière. Donc, il a expliqué que Facebook est une compagnie dont le business n'est pas basé sur l'utilisation des données des utilisateurs. Mais la majorité des sous qu'ils font viennent de l'utilisation des sous des utilisateurs. Vois-tu la différence? Facebook n'est pas un journal, ce n'est pas un média, mais ce sont les principaux fournisseurs d'informations de la majorité de leurs utilisateurs. Vois-tu la différence? Facebook, ils ont une monnaie, mais ce n'est pas une monnaie. Comprends-tu la différence? C'est un peu la spécialité de Facebook, et je vais te dire quelque chose. Alors, tu parles de PayPal, de ces compagnies. Ces compagnies, pour faire ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, ils sont dans une catégorie particulière, ils ont une série d'autorisations qui leur permettent de transférer de l'argent au niveau international. Parce que transférer de l'argent internationalement, c'est pas quelque chose qui est facile à faire. Tu peux pas le faire juste comme ça aujourd'hui ou demain. Si l'argent sort de la France vers le Canada, cet argent, elle va passer à un moment ou à un autre par la banque centrale française avant d'arriver à la banque centrale canadienne. Et ce sont des transactions assez spéciales. Tu sais, aujourd'hui, on est quand même dans un monde avec des pays, avec des frontières, avec des législations différentes d'un pays à l'autre, avec des accords internationaux qui régulent le transfert monétaire et toutes ces choses. Donc Facebook, là, ils vont créer une monnaie, mais attention, ils le précisent déjà dans le white paper, ce n'est pas une monnaie. C'est encore une fois la histoire avec Facebook. Et le gouvernement américain ne régule toujours pas les compagnies similaires à Facebook, que ce soit du point de vue des journaux, donc des médias, parce que c'est un média, ou que ce soit des points de vue de l'utilisation des données. Aujourd'hui, ça, c'est la folie incroyable. L'Europe est en plus en avant là-dessus, mais aujourd'hui, aux États-Unis, il n'y a quasiment aucune régulation sur l'utilisation des données des utilisateurs. Donc, ça, c'est plus grave pour deux choses. D'abord, on va revenir sur la partie monnaie un peu, mais ça veut dire que de la même manière que Facebook ont aujourd'hui accès aux informations de tous leurs utilisateurs et peuvent les utiliser un peu comme ils le veulent, c'est un peu la même chose pour le paiement. C'est ça qui risque de se produire. Mais pour revenir à la partie paiement, ça serait super ce que tu décris, ça serait génial, et en fait on peut déjà le faire aujourd'hui, mais avec des services qui ont obtenu les autorisations nécessaires et qui ont le pouvoir nécessaire pour faire ça, si tu vois ce que je veux dire, au niveau des législations et des gouvernements. Facebook va arriver et faire ça comme une app. Pourquoi? Ça va être différent, nous on va être une stablecoin, on va être dans la catégorie cryptocurrencies, mais les cryptocurrencies, elles ont été classifiées par la SEC, donc comme l'AMF en France, l'organisme qui est responsable des marchés financiers, des différentes classes financières. financières, tout ça, ils ont déjà classé la majorité des crypto-monnaies comme des commodités. Et donc, elles devaient respecter ces conditions au minimum. Surtout dans le cas où il y a le doute, il faudrait faire ça. Mais là, ce que Facebook propose, c'est de pas trop se lier à ces régulations. Tu sais, quand tu veux envoyer de l'argent à l'étranger, tu dois donner ton identité. Ouais. Tu dois vérifier beaucoup de choses, parfois l'origine des ressources pour empêcher le terrorisme, le blanchiment d'argent, tout ça. Plus le blanchiment d'argent que le terrorisme, je pense. Mais Facebook, pour l'instant, il parle pas du tout de toutes ces choses qui sont un obstacle majeur au développement d'une monnaie.
Disons qu'ils en parlent. Là, je me retrouve à défendre Facebook. Disons qu'ils en parlent. Il y a le fameux KYC, Know Your Customer, donc la fameuse vérification d'identité de l'utilisateur. A priori, c'est des choses qui vont être mises en place par Calibra, qu'on n'a pas encore cité d'ailleurs, qui est un peu le bras commercial, ouais, en fait, de Libra, de, ouais, Facebook, ouais. Donc qui sera l'entité commerciale en charge de proposer un wallet et de permettre, enfin un wallet ou pas un wallet du coup, puisqu'il n'y a pas a priori de blockchain, donc je sais même pas si on doit appeler ça un wallet, mais en tout cas de proposer une application qui permettra d'acheter et d'échanger les Libra. Donc il devrait faire une partie du travail, mais c'est vrai que t'as raison. Enfin après. C'est vrai que t'as raison. Enfin, Facebook arrive un peu la bouche en cœur en disant on va révolutionner un truc qui dort. Le fait que ces activités soient aussi soient pas aussi rapides, on va dire, que les réseaux sociaux à évoluer et à s'améliorer, c'est pour des raisons essentiellement de législation et des raisons parfois même politiques. Hein. Tu parles du terrorisme et du blanchiment d'argent. Enfin, il y a clairement des questions politiques.
Les sanctions internationales aussi. Hein.
Voilà, c'est ça. Mais malgré tout, je comprends, hein, je comprends les aspects négatifs. Et là, en fait, t'es en train de citer toutes les raisons pour lesquelles ça pourrait ne pas marcher ou en tout cas ralentir un petit peu. Il semblerait qu'à la suite de l'annoncement, ils aient quand même pris un petit peu de. Il y a eu beaucoup de réactions de la part de ministres et de gouverneurs de banques centrales. Donc il va falloir qu'ils s'expliquent, il va falloir qu'ils montent patte blanche avant de se lancer. Moi malgré tout, je te dis, la question principale c'est les usages en fait, et c'est clair que dans une certaine mesure, pour dire mon point de vue très personnel, dans une certaine mesure ça va poser tout un tas de questions du point de vue de la vie privée en particulier, et puis même après des questions de blanchiment d'argent, même si moi personnellement ça me concerne un petit peu moins, j'ai pas envie non plus de contribuer à un système qui aide au blanchiment d'argent. Mais malgré tout, les usages que Libra nous fait miroiter sont quand même suffisants pour que, de mon point de vue, j'ai envie que le projet réussisse. Après, c'est un avis très très personnel.
Je comprends tout à fait ce que tu veux dire et je suis d'accord avec toi, mais pour moi, c'est encore une histoire de est-ce que ce qu'on veut, c'est la fin ? Ce qui nous intéresse, c'est comment on arrive à un résultat ou juste d'arriver au résultat ? Ouais. Parce que arriver au résultat, c'est facile. Le problème, c'est comment est-ce que ça change le monde une fois qu'on arrive à ce résultat, ouais, de la manière dont on y est arrivé. Et c'est là toute la question. Je pense que personne aujourd'hui, même au niveau de ces gouvernements, de ces ministres, de ces dirigeants de banques centrales, ils sont tous clairs sur le fait que effectivement, il y a des problèmes avec l'argent. L'argent a peut-être besoin d'évoluer, a peut-être besoin de changer, de devenir plus simple à utiliser, mais il faut que ça se fasse dans un certain cadre. Sinon, ça va être la même chose que ce qui s'est passé avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, t'as les réseaux sociaux qui sont là. Il y a même pas de législation pour beaucoup de choses liées, ouais, aux données privées, à la vie privée. Ouais. Regarde la pagaille que ça nous donne. Ça fait que les gens, ils ont tout le temps des problèmes de, comment ça s'appelle, identity theft. Quelqu'un utilise son identité.
Vol d'identité, ouais.
Vol d'identité, parce que les compagnies ne sont même pas censées déclarer quand ton identité a été volée, qui permet, ouais, de protéger ton crédit ou des choses comme ça. Bref, ça, c'est une autre affaire. Mais c'est ça la question. C'est comment est-ce qu'on y arrive. Donc, il y a plein de gens qui pensent que c'est avec Bitcoin, mais comme on l'a souligné, au niveau technologie, on n'y est pas encore au niveau de quelque chose de complètement décentralisé. Il y a beaucoup de gens qui veulent qu'on y arrive de manière complètement décentralisée parce que ça éviterait les points négatifs dont on parle. Mais tu vois, au niveau de la législation, ça ne marcherait pas parce, ouais, qu'il n'y aurait pas de KYC, il n'y aurait rien. Donc, il y a tout un tas de choses qui vont un peu venir peut-être en place doucement. Mais Facebook sont arrivés là, ils ont dit, ils sont pas arrivés en disant, SEC, regardez, on veut lancer dans un an. Est-ce qu'on peut s'asseoir, en discuter? Et c'est la SEC qui est l'AMF, l'équivalent en France. On voudrait faire avancer ça ensemble et tout. Non, là, ils ont écrit un white paper, ils l'ont mis en ligne. Ouais. Et puis ensuite, maintenant, tout le monde réagit. Et
il semblerait, c'est assez intéressant ça en fait, parce qu'il semblerait qu'il soit en discussion avec beaucoup de personnes depuis très longtemps, mais c'est vrai que la réaction de beaucoup d'autorités donne l'impression que, comme tu dis, ils sont arrivés avec leur white paper en disant regardez, on va faire ça, et puis du coup il y a eu une réaction et une certaine volée de bois vert de la part de certaines institutions. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être un espèce de retard à l'allumage entre guillemets en termes de communication avec les autorités.
Il faut savoir que c'est pas un retard à l'allumage qui a été fait euh, pas, pas express, tu vois ce que je veux dire. C'est pas la première fois que des compagnies tech ou Facebook vont comme faire quelque chose et ensuite, oh, on savait pas, on peut en discuter, on peut changer. Mais en gros, là, tu vois, ce qu'ils veulent, c'est jouer sur le fait que les gens, bah, vont être intéressés par ça. Ils ont mis en aspect tous les bons avantages. Tu vois, toi-même, tu me dis, ah, mais ça serait génial, ça serait bien. Bah oui, ça serait bien.
Je me suis fait avoir.
C'est technologiquement impossible depuis longtemps. On peut le faire. Le problème, c'est pas que on veut pas le faire ou que personne veut le faire et que Facebook, c'est des génies, ils y ont pensé. Non, c'est que les autres sont déjà arrêtés par des points. Parce que les autres, les petites compagnies, elles essaient pas de faire ça. Elles essaient de parler avec les autorités et de construire quelque chose ensemble. Ouais. Là, ça marche pas. T'es bloqué au bout d'un moment parce qu'ils te disent, ah non, on peut pas faire ça. Eux, ils ont fait autre chose. Ils ont fait, regarde, on va faire ça, on va faire ce truc, puis maintenant, on verra avec les autorités après. Ce qui est souvent une manière de faire qui agace beaucoup un public aux États-Unis. Tu sais, il y a quand même une partie légèrement à gauche aux États-Unis qui est très agacée par ce genre de compagnie, de comportement des compagnies tech qui voudraient plus de régulation à ce niveau-là. Sans parler d'autres choses que Facebook va peut-être toucher ici qui a été un point difficile aux États-Unis en tout cas et dans le reste du monde depuis longtemps, moins en Europe on dirait, mais plus aux États-Unis, qui est que les États-Unis ont toujours empêché les systèmes de paiement de devenir des banques et les banques de devenir des systèmes de paiement. La raison, c'est que si jamais j'utilise par exemple Visa et que ma banque, on va dire n'importe quelle banque là, Bank of America, j'ai pas choisi les meilleurs, mais on va dire Bank of America, ils voient que j'utilise Visa, en fait ils vont voir combien ça me coûte de faire mes transactions. Allô?
Ouais, je suis toujours là.
Ils vont voir combien ça me coûte de faire mes transactions et Bank of America peut facilement me proposer un service qui me revient moins cher. D'accord. Et donc, en fait, elle a un avantage énorme par rapport au système de paiement. Et c'est pour ça que Visa ne sont pas une banque et que Bank of America ne sont pas Visa.
D'accord.
C'est ça le truc. Mais là, Facebook, si tu as lu leur white paper, ouais, tout
sont,
le début,
ils sont un peu les
de
deux,
quoi? De unbanked. Ils veulent juste attaquer les 1,7 milliard de personnes qui n'ont pas de banque. Donc, ça vient aussi remettre en doute ce problème-là, ce conflit d'intérêts qui a toujours été bloqué par le gouvernement américain.
Ouais. Et puis, alors après, bah, c'est vrai qu'il y a des problèmes qui se placent aussi à différentes échelles, puisque la complexité du système bancaire et des systèmes de paiement, du coup, que tu décris, donc qui existent en Amérique du Nord ou dans certains pays d'Asie, enfin beaucoup de pays d'Asie ou même de pays européens, enfin ou même en Europe, c'est des problèmes finalement que certains pays africains sont encore loin d'avoir et se posent peut-être un peu moins aussi. Et donc du coup, quand tu vois par exemple M-Pesa au Kenya et dans d'autres pays d'Afrique, bon, le fait que ce soit à la fois un moyen de paiement et que ça te donne un certain nombre de services bancaires, finalement c'est presque appréciable par les utilisateurs et ça pose pas forcément les problèmes que poserait un Visa qui deviendrait à la fois une banque et un système de paiement. Allô? Allô, tu m'entends?
Moi, j'étais. Oui, donne-moi une seconde, j'étais un peu. Je t'entends, j'étais juste un peu perdu. Attends, c'est quoi? Excuse-moi une seconde. Je dois changer de bureau.
Ok, pas de problème. On peut.
On peut
conclure aussi.
J'ai trouvé un endroit.
Ok, ça marche. Ouais, je me rends compte qu'il est.
Ouais, on peut aller doucement vers la conclusion. En effet, on a beaucoup tardé sur. c'est un sujet très intéressant du point de vue de la législation, de la tech. C'est comme, tu sais, il y a quelque chose qui se produit doucement depuis longtemps, puis il y a quelqu'un, un gros là, super fort, qui vient et qui met un coup de pied dans le nid d'abeilles, là, et il dit, bon, bah, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Les abeilles vont m'attaquer ou quoi? C'est un peu ça.
Ouais, bah ouais, c'est exactement ça. Donc, enfin, ouais, c'était comme d'habitude, enfin, comme d'habitude, non pas comme d'habitude, mais je suis assez fan du podcast de la bulle crypto, et donc c'était super intéressant de t'écouter et de discuter avec toi sur ces questions-là. Donc, comme tu l'as compris, moi, je suis, bah pas forcément optimiste, mais en tout cas assez excité à l'idée d'avoir de voir la façon dont le projet va être exécuté. En même temps, bah oui, les contraintes d'ingénierie et les contraintes techniques que t'as levées, et les contraintes aussi politiques et réglementaires que tu lèves sont à mon avis tout à fait valides et va falloir voir un petit peu comment les choses vont se dérouler, quoi.
J'ai hâte de voir aussi comment ça va se dérouler et puis l'idée là, la motivation, c'est peut-être qu'on réussisse à trouver une manière d'avoir les services et les avantages dont tu parles, mais à la même temps de garder certains des aspects positifs des crypto-monnaies. Voilà, exactement, pas d'avoir une monnaie numérique qui sert de crypto, parce que dans ce cas-là, on pourrait utiliser nos points Starbucks déjà pour faire une monnaie, ça c'est un peu là.
Ouais.
Voilà, mais Starbucks aurait le contrôle pour l'absolu dessus, pour regarder tout ce qu'on achète, tout ça, voilà.
Ouais, bah c'est vrai que l'idée d'avoir, donc on n'en a pas trop parlé, mais c'est vrai que cette organisation, donc aujourd'hui il y a 27 membres, enfin on en a parlé très très rapidement, il y a 27 membres, a priori ils veulent élargir ça jusqu'à 100 membres, avec à chaque fois donc un droit de vote par membre. Donc ça veut dire que Facebook n'aurait pas plus de poids que Visa, qui n'aurait pas plus de poids que je sais pas qui d'autre, Uber ou Free d'ailleurs, enfin Iliad, pour
ouais,
ne citer que.
J'ai entendu ça.
Ouais. Et mais c'est vrai. Et aussi on a parlé donc du système de permission. Donc a priori il y a que les gens qui opèrent des nœuds qui ont le droit de valider ou d'invalider des transactions, un peu à la façon d'un Ripple. Et il semblerait qu'aussi l'idée c'est de transitionner vers quelque chose qui serait permissionless. Donc ça c'est pareil. A priori c'est pas forcément chose qui est très détaillé, voilà. mais c'est vrai que bon voilà, après Facebook hein, classique, si vous allez sur libra.org, on a des jolies photos, on a vraiment quelque chose qui vous vend bien le projet, la preuve j'ai marché. mais c'est clair que ce qui va compter c'est de voir où ils en seront dans un an, est-ce qu'ils vont vraiment lancer ça comme ils disent donc au premier trimestre de l'année prochaine. Il semblerait qu'il y a quand même beaucoup de travail à venir, et puis de voir après quelle va être l'adoption, parce que je pense que c'est pas quelque chose où on appuie sur un bouton et hop c'est disponible dans tous les pays du monde. Il va falloir travailler, comme tu le disais, avec les banques centrales, travailler avec les autorités de régulation locale et de faire ça pour chacun des pays. Moi, ce que je me dis, c'est que Facebook a quand même aujourd'hui une puissance de frappe, que ce soit du point de vue des départements légaux, enfin les avocats, en gros, l'armée d'avocats qu'ils ont, l'équipe qu'ils ont été capables de lever pour bosser sur ce projet. Je pense qu'ils ont peut-être un peu plus de chances de réussir qu'un projet ICO lambda avec une équipe pas forcément super super connue.
Énorme avantage, c'est au niveau du consortium de partenaires qu'ils vont avoir, qui va permettre d'offrir des deals, des opportunités peut-être, parce que c'est comme ça qu'ils pourraient accélérer l'adoption au mieux. C'est par exemple si tu t'offres une réduction sur ton abonnement, si tu payes en lira plutôt qu'en euros.
Absolument.
C'est là qui permettrait la réussite. Le problème, c'est que ça vient à l'encontre de beaucoup de législations.
Ouais, non, en fait. Enfin, j'allais dire l'exemple que tu donnes, en fait, c'est un très bon exemple. Il y a Spotify aussi, d'ailleurs, qui en fait partie.
Ouais.
En fait, ce à quoi on pense pas, c'est les frais bancaires. En fait, les frais bancaires sont, les frais de traitement de carte, bancaire et de traitement de carte de crédit, en particulier en Amérique du Nord, qui sont beaucoup beaucoup plus élevés que les frais qui existent en Europe. Et c'est vrai que c'est finalement assez important, c'est beaucoup d'argent qui est donné chaque année à n'importe quelle personne qui accepte la carte bancaire à Visa et à Mastercard. Donc du coup on pourrait peut-être un jour avoir une situation où on dirait si tu payes en lira, moi je paye moins de frais, de la même façon que des fois c'est moins cher quand on paye en cash, pas seulement parce que ça échappe potentiellement au livre de compte, mais aussi parce que on n'a pas à payer les frais des gens qui traitent les cartes bancaires. Je te propose que en gros dans un an ou un an et demi on refasse un épisode spécial et on fasse le point.
Mais juste avant qu'on termine, je voudrais rajouter quelque chose. Tu vois, là, ce que tu as proposé, c'est très intéressant. C'est qu'on paye des frais, et ça, c'est un problème parce que les frais sont trop élevés. Mais de là, le raccourci de dire que la solution, c'est de donner le système de gestion entier à Facebook. Honnêtement, en ce moment, je fais plus confiance à Visa qu'à Facebook. Après avoir vu ce que Facebook pense et fond de la vie privée, je préfère travailler avec Visa.
Ouais.
Donc, c'est là aussi la question. C'est que Facebook va devoir nous convaincre et réussir à nous prouver.
Ouais.
Qu'ils sont dignes de confiance.
Ouais.
Et c'est, pour moi, là, ça reste le point le plus compliqué pour eux particulièrement.
Ouais.
Je ferais plus confiance à Starbucks qu'à Facebook aujourd'hui.
Ouais, je suis très d'accord avec toi. C'est vrai que ça arrive complètement au mauvais moment. On a parlé avec Stéphane dans le hashtag il y a quelques semaines du portal et de cette espèce de comment est-ce qu'on appelle ça, cette espèce d'assistant connecté avec un écran et une caméra en gros dont il faisait la pub et que tu te mets dans ton salon. Alors forcément quand ça arrive juste après le scandale de Cambridge Analytica, bon courage pour le vendre. Là je pense qu'il y a
ça date d'il y a
quelques mois voire même quelques années, donc les gens ont peut-être un petit peu oublié, mais je pense malgré tout que comme tu dis, il faut qu'ils redorent un peu leur image et on n'est pas encore complètement prêt à faire confiance à Facebook, et là pour le coup probablement pour de bonnes raisons. Autant je suis assez enthousiaste à l'idée de ce projet Libra, autant je me dis que je suis pas complètement confiance non plus à Facebook.
On est d'accord là-dessus.
Voilà. Bon écoute Elias, je te remercie d'avoir pris le temps de discuter avec moi en dépit des petits inconvénients techniques. C'était super sympa. Si on veut en savoir plus sur toi et sur tes activités, comment est-ce qu'on peut faire pour te retrouver?
Lié au crypto, la bulle crypto, c'est très bien. Donc la bulle crypto, on est un podcast qui on est un peu avancé au niveau des cryptos, c'est-à-dire qu'on prend pas trop le temps d'expliquer toutes les choses pour les débutants. On considère que c'est adressé aux personnes qui ont pris le temps de se renseigner un peu sur les cryptos et puis de savoir les petites bases là. Mais il faut pas hésiter à nous demander sur notre channel Telegram, la bulle crypto, at la bulle crypto sur Telegram, le système de communication. On sera ravis de vous en expliquer plus là-dessus. Et puis nos épisodes, donc on va reprendre prochainement des épisodes sur les news des crypto-monnaies, des épisodes qui sont des focus qui expliquent en détail l'histoire, la technologie, l'équipe, le contexte, le business case d'une crypto. Et puis quelques autres types d'épisodes qui viennent et qui partent de temps en temps. Donc voilà, moi je m'occupe du podcast principalement, et si vous voulez en apprendre plus, @labullecrypto sur Twitter, @labullecrypto sur Telegram, le channel YouTube, on est sur iTunes, SoundCloud.
Voilà, tout partout. Super. Et ouais, comme vous l'avez compris, hein, donc Ilias fait partie des experts de crypto, mais malgré tout, la bulle crypto reste pas forcément abordable aux débutants, mais si vous avez envie de vous intéresser aux crypto, ça reste malgré tout abordable. Donc faites un saut, écoutez quelques épisodes et ça devrait vous plaire.
Parfait, merci beaucoup. C'était voilà. Vraiment intéressant.
Allez, à la prochaine. Ciao.
Bonne journée, salut. Bye.